Conflit de génération, guerre des temps, déclin de la transmission. Depuis quelques décennies, on nous annonce un scénario noir de la lutte des âges avec bataille et affrontements majeurs en perspective. Or, rien ne se passe comme prévu. Et contrairement à tous les pronostics, les liens intergénérationnels sont loin d'être détruits, bien au contraire. Pourquoi dans un contexte de crise majeure et d'individualisme y a-t-il encore du lien? Mes deux invités sociologues et philosophes publient La guerre des générations aura-t-elle lieu? Serge Guérin et Pierre-Henri Tavoyot sont les invités de l'émission dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Les origines de la vie multicellulaire aujourd'hui à la une de la science.
Oui Mathieu, quand sont apparus sur Terre les premiers organismes complexes composés de plusieurs cellules? Cette question est d'une des plus grandes énigmes de la paléobiologie et on tente d'y répondre en suivant la piste de l'oxygène avec le géochimiste Christophe Tomaso.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et la guerre des générations aura-t-elle lieu? C'est donc un livre qui sort chez Calmann Lévy et que vous signez Serge Guérin et Pierre-Henri Tavoyot. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Serge Guérin, cette guerre des âges tant prophétisée, hein, visiblement n'a pas eu lieu, toujours pas pour le moment. Pourquoi les liens justement entre les générations sont toujours aussi forts aujourd'hui?
Sans doute parce qu'ils sont d'abord profondément naturels, c'est-à-dire que généralement au sein d'une famille, il y a plusieurs générations qui coexistent.
Et ça permet de renforcer, de maintenir en tout cas ce lien?
En tout cas, c'est une réalité déjà sur laquelle finalement tout le reste s'appuie.
Pierre-Henri Tavoyot, comme vous avez pu le constater sur le terrain, ce sont même de nouvelles formes de relations qui naissent et qui s'inventent dans ce contexte de crise là aujourd'hui?
Oui, il y a une forme de reconfiguration. On est sorti du lien imposé traditionnel à un lien, alors qui est fragile, mais qu'il faut constamment réinventer et soutenir aussi. C'est pour ça que l'action publique a aussi un rôle très important à jouer dans cette affaire.
Et c'est le cas, visiblement. Il y a beaucoup d'idées dont vous allez nous faire part dans quelques instants. On se retrouve dans quelques minutes et je signale aux auditeurs que l'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir les messages aujourd'hui. Et la question de l'apparition de la vie sur Terre, cette question est d'autant plus dure à traquer qu'elle est ancienne et encore plus si elle se cache. Une nouvelle publication renforce une théorie récente selon laquelle la vie complexe avec les organismes multicellulaires soit apparue très tôt, il y a plus de 2 milliards d'années, et puis qu'elle se soit tenue cachée pendant plus d'un milliard d'années avant de prospérer à nouveau dans les conditions et lorsque les conditions sont devenues favorables. Alors pour commenter ce travail américain fait exclusivement en étudiant des roches, nous sommes au téléphone avec vous, Christophe Tomaso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géochimiste et maître de conférence à l'université de Bourgogne. Expliquez-nous d'abord pourquoi, pour traquer les formes de vie complexes dans l'histoire de la Terre, ces chercheurs se sont intéressés à l'oxygène de l'atmosphère.
Alors, on regarde l'oxygène de l'atmosphère parce qu'on sait que ces formes de vie complexes sont des formes de vie qui possèdent des cellules eucaryotes et qui réalisent le plus souvent un métabolisme de type hétérotrophe, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'oxygène pour se développer. Et donc, avoir une contrainte sur la quantité d'oxygène, ça nous donne une information indirecte sur quand les organismes multicellulaires ont pu apparaître sur Terre.
Alors, on sait que l'oxygène a fortement augmenté dans l'atmosphère il y a 2,3 milliards d'années, puis a diminué, puis de nouveau augmenté jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il faut comprendre que la vie complexe est apparue, a disparu, puis est réapparue à nouveau?
Alors, on pourrait être tenté de l'interpréter comme ça. On n'est pas vraiment sûr de ce scénario. Ce qu'on arrive bien à comprendre, c'est qu'en effet, la quantité d'oxygène a augmenté fortement il y a 2,3 milliards d'années, puis un peu plus fortement que ce qu'on pensait finalement, et rediminué. Alors du coup, on a une fenêtre de cette quantité d'oxygène qui aurait pu permettre l'apparition de la vie multicellulaire. Après, quand ça a diminué doucement, on ne sait pas si la vie multicellulaire a complètement disparu ou si finalement elle s'est juste cachée dans des environnements où c'était encore possible. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la pression environnementale a dû être très forte, très rapidement en fait, après cette première augmentation de la concentration d'oxygène.
Et comment on explique justement ces fluctuations de l'oxygène?
C'est pas encore très clair. Ce qu'on pense, c'est que c'est très lié à la façon dont le cycle du carbone fonctionne. En fait, il y a un lien très fort entre la quantité d'oxygène et le cycle du carbone. Et en particulier, à cette époque, on sait qu'on a préservé beaucoup de sédiments très riches en carbone. Et quand on préserve beaucoup de carbone dans l'enregistrement géologique, on sait qu'on favorise l'augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère.
À part les indices liés à l'oxygène, est-ce qu'on a d'autres preuves qu'il y avait de la vie complexe avant 2 milliards d'années sur la Terre?
Alors oui, on a pas mal de preuves. C'est rarement des indices directs parce qu'on a du mal à observer des organismes de cet âge. Ces roches sont très anciennes, elles ont subi tout un tas de processus géologiques. En revanche, on a des indices indirects. Ça peut être des bioconstructions. Alors, on a les stromatolites qui sont un des grands exemples emblématiques. C'est un peu l'équivalent de la coquille des bivalves actuelles, mais sous forme de roche. Et puis, on a tout un tas de marqueurs qui sont également indirects chimiques.
Si jamais la vie complexe multicellulaire, comme vous le dites, n'a pas disparu au moment où l'oxygène a diminué, qu'est-ce qu'elle est devenue à ce moment-là?
Ça, c'est très difficile à dire parce qu'on a du mal à l'observer. On n'est déjà même pas bien sûr qu'elle ait existé à cette époque. Ce que dit cette publication, c'est que les conditions étaient réunies pour. Mais on ne sait pas si elle était là vraiment. Si elle a existé, on peut imaginer qu'elle soit dans des niches écologiques qui sont très réduites pendant un laps de temps assez long.
Ces stromatolites, là, on les trouve dans quelle région du monde, Christophe Tomaso?
Alors, ces stromatolites, on en trouve à peu près sur tous les boucliers géologiques qu'on sait à cet âge-là, les boucliers très anciens, qui est la période géologique qu'on appelle l'Archéen. On va les voir principalement. Alors, ils ont été beaucoup décrits en Australie.
Oui.
En Afrique du Sud, au Canada, et récemment
au Groenland,
tout à fait, a été suggéré des stromatolites très vieux, qui dateraient de 3,7 milliards d'années, ce qu'en fait des indices qui sont extrêmement vieux par rapport à ce qu'on connaissait avant.
Ouais, on garde toujours le conditionnel sur ces datations même.
Sur les datations, il y a une marge d'erreur qui, pour ce genre d'objet, peut aller jusqu'à la centaine de millions d'années. Mais bon, là, c'est pas l'échelle de temps qui nous intéresse parce qu'on est dans le milliard finalement.
Ouais.
En revanche, là où on est le plus précautionneux, c'est sur l'interprétation des structures qu'on observe. C'est pas facile, je vous l'ai dit, il y a souvent pas d'indices de biologie, il y a peu de matière organique dans ces échantillons. Pas toujours bien sûr que d'autres processus qu'on connaît pas parce qu'ils n'auraient pas d'équivalent dans la géologie actuelle. Et pu produire ce type de structure. On part toujours du principe en géologie de l'actualisme, mais quand on remonte le temps aussi loin, les conditions étaient quand même très différentes, donc l'actualisme peut avoir ses limites.
Est-ce qu'on sait à quoi ressemblaient, ou est-ce qu'on peut imaginer à quoi ressemblaient les premières formes de vie complexes? Visuellement, on peut se les représenter?
Non, c'est difficile. Alors en revanche, toujours dans l'enregistrement géologique, il y a quelques années, a été publié et proposé des formes de vie multicellulaire dans des roches, dans des affleurements géologiques au Gabon, dans la formation de Franceville. Et les formes qui sont proposées sont des petits disques de quelques centimètres qu'on fait penser rapidement à des méduses. Alors, c'est absolument pas des méduses, bien entendu, mais ça pourrait ressembler à morphologiquement un genre de choses. Mais bon, après, la morphologie de ces œufs, le lien entre la morphologie, le métabolisme, les fonctions, même dans le monde animal actuel qu'on peut décrire, on a souvent du mal à le faire. Alors, dans un registre aussi lointain, c'est difficile.
On est quand même très précautionneux, et il n'y a pas grand-chose, en fait, qui permette d'avoir des affirmations.
C'est la science.
oui, la science... Des tout débuts de la vie, oui.
Et on est très précautionneux. Alors, on est très précautionneux sur les grandes interprétations et sur la façon dont la vie a pu évoluer. Par contre, il y a des choses qu'on maîtrise quand même beaucoup mieux, sur la chimie en détail, sur comment la vie va fractionner les différents éléments chimiques, on a des contraintes un peu plus fortes. Et aussi parce qu'il y a de la théorie derrière, il y a de la thermodynamique, il y a de la chimie organique, il y a des choses comme ça. Là, quand on parle de choses aussi lointaines, on n'a pas forcément les outils théoriques aussi pour bien mettre en musique les informations qu'on observe.
Qu'est-ce qui pourrait permettre aux scientifiques de trancher au final entre une simple ou une double, si je peux le dire comme ça, apparition de la vie complexe dans l'histoire de la vie?
Comme marqueur direct, des fossiles de très bonne qualité pourraient déjà nous indiquer ou nous certifier qu'on a de la vie multicellulaire à plusieurs dates. Et après, est-ce que ça a été inventé plusieurs fois? C'est assez compliqué de répondre à cette question. C'est très compliqué.
Donc on tâtonne et on n'a toujours pas notre réponse, au fond.
Ouais, mais ceci dit, je voudrais reprendre une citation de Stephen Jay Gould, mais si on rembobine le film de la vie, et qu'on le relance, il sera probablement très différent. Donc, c'est toujours compliqué de faire cette démarche de tout rembobiner et de se dire est-ce que ça a apparu plusieurs fois, pas plusieurs fois, dans quelles conditions. C'est pas évident.
En tout cas, merci beaucoup pour ces informations et ces éclairages, Christophe Tomaso. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une intelligence artificielle pour déceler les cancers de la peau. Des chercheurs de Stanford se sont demandé si un algorithme apprenant pouvait faire aussi bien qu'un dermatologue pour détecter une tumeur. Ils ont donc entraîné leur logiciel avec plus de 130 000 photos de patients atteints de différentes formes de mélanome et ont ensuite testé leur machine contre 21 spécialistes humains. Publié dans la revue Nature, les résultats sont impressionnants car le programme a fait aussi bien que la moyenne des 21 dermatologues. Une démonstration à la fois effrayante pour les futurs médecins mais encourageante d'un point de vue de l'accès au dépistage dans le monde entier. Étudier le microbiome intestinal des chiens pour lutter contre l'obésité canine, s'inspirant d'études reliant chez l'homme le déséquilibre microbien des intestins à de nombreuses maladies. Des chercheurs américains ont exploré cette piste chez les chiens. En comparant la flore intestinale en fonction de leur régime, ils ont constaté non seulement que l'alimentation influe lourdement l'état de cette flore, mais aussi que les chiens obèses sont les plus sensibles à ces changements. Cette publication apporte des espoirs dans la lutte contre l'obésité des chiens. Espoir d'autant plus grand qu'elle est épidémique aux États-Unis. Un animal de compagnie sur deux là-bas étant obèse ou en surpoids. Et puis le plancton empoisonné par le changement climatique, c'est la crainte des chercheurs suédois exprimée dans un article du journal Science Advances. Selon eux, le réchauffement climatique pourrait dangereusement favoriser dans les océans la production de bactéries aux dépens de celle des phytoplanctons. De plus, cette dérégulation du climat favoriserait l'augmentation des concentrations de méthylmercure dans les chaînes alimentaires des lacs et des océans. En effet, les changements climatiques accéléreraient le processus de production de cette neurotoxine qui se retrouve ensuite dans l'ensemble des organismes de l'océan et qui, pour certains, finissent dans nos assiettes. Allez, dans un instant, la guerre entre les générations aura-t-elle lieu ? Tudor Cinema Club. Are we ready?
La tête carrée sur France Inter.
La guerre des générations aura-t-elle lieu? C'est un essai qui sort chez Calmann Lévy et vous le signez Serge Guérin et Pierre-Henri Tavoyot. Serge Guérin, vous êtes sociologue, spécialiste des enjeux du vieillissement et de la solidarité, professeur à l'INSEC Paris, l'école de commerce et de management où vous dirigez le master directeur des établissements de santé. Et puis Pierre-Henri Tavoyot, vous êtes philosophe, professeur à la Sorbonne, spécialiste des âges de la vie, de l'autorité, de l'art politique démocratique. Alors vous posez donc dans ce livre une question à laquelle d'ailleurs vous répondez dès le prologue. Est-ce que nous sommes à la veille d'une guerre des âges? Et pour illustrer cette question, vous démarrez le livre par une fiction hilarante que vous situez en 2026. Alors on y croise les vieux escargots en colère, le lobby des cheveux gris, une Marianne Botoxée, un Jean d'Ormesson et un Edgar Morin pétant la forme dans un contexte donc de manifestation et de haine entre les générations. Voilà exactement ce qui n'arrivera pas en 2026, Pierre-Henri Tavoyot.
Oui, ça n'arrivera pas. Le scénario de guerre des générations est très très tentant parce que c'est vrai que face à un monde complexe dans lequel on est, on n'a pas beaucoup de manières de raconter ce qu'on est en train de vivre parce qu'à chaque fois c'est compliqué, les enjeux sont extrêmement complexes. Donc face à cette complexité, on est souvent tenté d'avoir recours à des scénarios très simples. Alors le complot en est un, et l'autre c'est celui de la guerre. Alors guerre des sexes, lutte des classes, guerre des civilisations, guerre des religions, et puis celui de la guerre des générations. Alors ça qui revient extrêmement, extrêmement souvent. Et donc, on a décidé, en quelque sorte, de prendre le scénario au sérieux et de se dire, mais quand on parle de guerre, il faut des batailles.
Ah oui, puis là, c'est le cas.
Voilà, où sont-elles, où se trouvent-elles? Et donc, voyant, en caricaturant effectivement ce scénario, montrer effectivement que c'est pas encore le cas et nous en sommes même très loin et c'est précisément plutôt l'inverse qui se passe.
Ouais, Serge Guérin, pourquoi nous sommes loin justement d'un tel scénario catastrophique où les jeunes et les vieux sont en guerre?
Et on en est loin peut-être parce que tout simplement c'est d'une certaine manière l'intérêt de personne. Et que chacun, en fin de compte, se connaît, sait en plus que souvent les jeunes peuvent avoir dans l'idée qu'un jour ils seront peut-être vieux. Peut-être âgé. Donc du coup,
donc ça suffit pour prendre soin des générations.
Alors ça ne suffit pas, mais en tout cas ça contribue quand même. Il y a quand même un petit quelque chose en disant tiens ça pourrait m'arriver. Mais deuxième élément, c'est que souvent ces gens plus âgés, en fin de compte, ils sont liés d'une manière ou d'une autre à soi, à son histoire, à sa famille. Donc là aussi, ça retient un petit peu les coups si jamais il y avait des coups à donner. Mmh. Et puis la troisième chose, c'est qu'en fin de compte, on s'est aperçu au contraire que plus il y a une société complexe, plus d'une certaine manière, les gens ont besoin d'avoir des relations d'alliance, d'avoir des relations d'aide, d'avoir des relations réciproques. Et finalement, un des mots qui ressort le plus, justement, c'est cette notion de réciprocité.
Alors, ce qui est incroyable quand même, et vous le rappelez en citant d'ailleurs des titres d'ouvrages, c'est que cette guerre des sexes, Pierre-Henri Tavoyot...
Des générations,
décidément, lapsus révélateur, ne cesse d'être prédit depuis les années 60. C'est-à-dire tout le monde imagine que ça va un jour arriver.
Même avant, d'une certaine manière, ça pourrait correspondre à la modernité, c'est-à-dire que à partir du moment où l'humanité, la collectivité se conçoit par rapport au futur, c'est-à-dire les sociétés traditionnelles sont structurées à partir du passé, c'est le passé qui fait sens. Les sociétés modernes se conçoivent à partir du futur, donc c'est le futur qui donne sens au présent. Et donc à partir de là, les générations qui incarnent le mieux le futur dans le présent, ce sont les enfants et les jeunes, et donc ce sont eux l'avenir, et les vieux sont voués à être déjà morts, être adultes. Alors on pourrait dire que ce scénario existe depuis longtemps, et puis c'est un scénario aussi qu'il faut voir ancré en nous, au sein de nos personnalités. C'est-à-dire que pour grandir, il faut à un moment donné considérer que ses parents sont des vieux cons. Voilà, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut, en quelque sorte, rompre avec le passé. Mais la grande erreur de ce scénario, c'est qu'il transpose à l'ensemble de la société un schéma individuel nécessaire. Et c'est là où ça marche plus. Parce qu'en vérité, on perçoit que sur le plan des valeurs, que sur le plan de l'attention, que sur le plan de l'inquiétude, il y a une formidable convergence intergénérationnelle. En mai 68, en effet, on pouvait envisager un clivage. Il existait encore. Aujourd'hui, toutes les enquêtes le montrent, il y a en fait, sur le plan des valeurs, ce à quoi on tient, ce qui rend la vie digne d'être vécue, une formidable uniformité entre les générations.
Ouais, et pour illustrer vos propos, justement, revenons en 1962, lorsque les jeunes, déjà, parlaient des vieux en plutôt bons termes, vous allez le voir.
On a beau dire que c'est les jeunes qui font la nation, je crois qu'il faut laisser aussi un peu la place aux vieux pour leur expérience personnelle. Nous, on doit écouter, on doit donner nos opinions, parce que c'est quand même nous, plus tard, qui sommes appelés à diriger la nation. Je crois qu'il faut quand même bénéficier de l'expérience de nos anciens et de ne pas trop être 68.
Serge Guérin, ils étaient bien ces jeunes des années 60, parlant des vieux, hein, quand même.
Pas mal. Et puis
comme,
je me disais,
comme de grands sages.
Mais oui. Non, ils avaient. Et puis je me disais, en les écoutant, cette personne-là doit avoir aujourd'hui à peu près 75 ans. Mm-hmm. Donc d'une certaine manière, elle n'a pas insulté l'avenir. Parce que parfois, vous avez des discours comme ça, des gens qui disent place aux jeunes, et ainsi de suite, parce que même se pensent jeunes, ils sont souvent d'ailleurs très vieux dans leur tête. On voit dans le monde politique, par exemple, c'est un des arguments souvent majeurs. Hein, mm-hmm. Le renouveau, c'est Bruno. Enfin, on a vu beaucoup des comme ça. C'est-à-dire que finalement, ces gens-là, un jour, ils vieillissent. Alors, comment ils font? Ils changent de discours, enfin, ils sont souvent rattrapés par ce fait-là. Donc c'est vrai que, en fin de compte, ce dont on s'aperçoit, c'est que d'un côté, depuis toujours, il y a eu un peu la querelle des anciens et des modernes, et donc les modernes avaient raison par rapport aux anciens, mais finalement, pour construire des modernes, il a fallu aussi des anciens, et puis en même temps, ces modernes-là, un jour, ils sont rattrapés par d'autres modernes. Et donc, en fin de compte, ce qui construit un pays, c'est sans doute ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est ce qui construit un pays, surtout dans une période difficile comme aujourd'hui, dans une période de crise, on veut comme ça trouver plein d'oppositions, c'est qu'en fin de compte, au-delà de ces oppositions...
On en a besoin humainement,
on a besoin dans nos têtes, et puis en fin de compte, pour co-construire ou co-reconstruire une société, on a sacrément besoin de le faire ensemble.
Ouais, Pierre-Henri Thoyot, alors que nous sommes dans un contexte, vous le rappelez, d'individualité, de consumérisme, qui aurait pu justement être une façon de perdre ce lien entre les générations.
Oui, d'ailleurs, les grands interprètes de la modernité annonçaient effectivement une sorte d'explosion des liens intergénérationnels, chacun étant relié à lui-même, Tocqueville, Durkheim et quelques autres annonçaient effectivement que ça allait exploser. Donc, c'est ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au regard de ces grands penseurs de la modernité, c'est intéressant de voir, il faut en quelque sorte renverser la charge de la preuve. Le vrai problème n'est pas que l'intergénérationnel fonctionne pas toujours très bien. Le vrai problème, c'est pourquoi il fonctionne encore. C'est ça la vraie question. Alors que nous sommes des individus, que nous sommes dans la consommation, que nous sommes effectivement focalisés sur notre bien-être, pourquoi est-ce que nous continuons envers et contre tout à considérer que la transmission est ultra importante, que la solidarité est ultra importante? Et justement, l'objet des quelques enquêtes que nous avons tenté de faire, c'était d'essayer d'aller voir cela même qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on parle effectivement de tout ce qui va mal. C'est l'extraordinaire investissement des Français, de façon générale, à la fois dans leurs idées et dans leurs actions à travers les associations et même à travers aussi l'action publique, sur cet intergénérationnel qui est véritablement enchanteur de la vie quotidienne.
Alors expliquez-nous justement, Serge Guérin, parce que parallèlement à l'écriture du livre, effectivement, vous avez fait ce travail de terrain pour aller voir comment s'illustraient au fond ces liens intergénérationnels.
En fait, ça fait très longtemps avec Pierre-Henri qu'on était un petit peu énervé par le débat ou par le fait que pour faire du succès, pour vendre du bouquin, il fallait dire on arrive à la guerre des générations. Souvent d'ailleurs par des gens qui avaient bien profité du système et qui disaient maintenant, non, c'est pas bien quand même ce qu'on a fait. Et nous, on disait, mais c'est quand même bizarre parce qu'on voit pas ça qui ressort. Donc, alors, il y a plein d'études déjà. On en a mis plusieurs, on en a même fait une avec Via Voice. Enfin, voilà, il y a ces études-là. Et puis, on a construit une sorte un tour de France de l'intergénération en allant comme ça dans des lieux, justement ce qu'on a appelé des lieux du lien, c'est-à-dire des endroits où ça se pratique. L'activité physique, une organisation, une association comme Ciel Bleu, qui organise donc des jeunes profs d'activité physique, qui vont travailler, qui vont avec des gens plus âgés, voire très très âgés, voire parfois en grande difficulté physique, et comment les choses se passent, et comment en fin de compte, des personnes à des âges très avancés peuvent, en faisant une activité avec des gens beaucoup plus jeunes, retrouver plus d'autonomie. Puis on est allé à un autre endroit où on était sur l'habitat. Par exemple, à Rennes, on se dit comment des gens jeunes, des gens plus âgés, des gens très âgés arrivent à vivre ensemble, non pas à cohabiter, mais à vivre ensemble et à construire à certains moments des solidarités entre eux, de la connivence, de la transmission, de l'expérience. Comment dans tel autre endroit, on va apprendre, l'université tout âge, à Bordeaux par exemple, comment on va apprendre les uns des autres. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est que sur le terrain, il se construit, alors ça ce sont quelques exemples, mais il y a des milliers et des milliers d'exemples. Alors parfois, c'est très connu, c'est lire, faire lire, par exemple, ça a plus de 15 ans, c'est plus de 18 000 bénévoles âgés aujourd'hui qui viennent avec des enfants être autour du plaisir de la lecture. Puis c'est ailleurs, deux jeunes filles qui n'ont même pas 20 ans, qui ont créé En voiture Simone et qui sont allées filmer des gens âgés pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, qu'est-ce qu'ils avaient dans le ventre, comment ces solidarités se construisaient. C'est-à-dire pour montrer qu'en fait, il y a des milliers et des milliers de petits ruisseaux. Ouais. Et ces petits ruisseaux, ils sont en train de construire un joli chemin de l'intergénération.
Voilà, il y a du lien, il y a de l'humour, justement, et des initiatives locales, Pierre-Henri Thoyot.
Oui, mais on peut ajouter, on n'a pas voulu faire un portrait idyllique de l'intergénérationnel. C'est-à-dire que aussi, on a été très attentif à ce qui ne marchait pas. Et ça, c'est des, on a, d'ailleurs, on apprend beaucoup plus. Par exemple, il suffit pas de mettre une école maternelle et une maison de retraite ensemble pour que ça fonctionne en disant ils vont partager leur dîner ou leur repas ensemble. C'est évidemment une catastrophe. C'est pas du tout le même rythme. Vous n'emmenez pas une école primaire et une maison de retraite visiter ensemble le Louvre. Mmh. Ça ne marche pas. Ce que ça signifie, c'est qu'il ne suffit pas de juxtaposer les générations pour faire de l'intergénérationnel. Ça, c'est vraiment la chose clé. C'est-à-dire, ouais, l'intergénérationnel, c'est une relation, comme disait Serge, de réciprocité, c'est-à-dire qu'il faut que chacun se sente acteur, bénéficiaire et en même temps donner quelque chose. Et c'est ça le point clé, parce qu'il suffit pas de mettre ensemble pour faire des liens et donner du sens à l'ensemble de la chose. Donc on a aussi beaucoup appris des expériences négatives et les gens le racontaient très volontiers.
Ce qui est très important, cet élément-là, c'est la notion de médiation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas au milieu des gens qui font le travail un petit peu de tricoter ce lien social, alors ça peut être des professionnels, hein, qui peuvent être liés au monde HLM, au monde des collectivités territoriales, ou ça peut être des associations, des bénévoles. Mais en tout cas, il faut qu'à un moment donné, des gens de tous les âges, ça peut être des gens jeunes, des gens plus âgés, des gens même très âgés, mais qui créent cette médiation, qui aident les uns et les autres à être ensemble. Si je reprends l'exemple de Rennes, par exemple, c'est parce que aussi il y avait au milieu une personne qui faisait vivre un peu cette intergénération que le système a pu se développer. Après, parfois, il trouve son rythme et puis il continue tout seul. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens comme ça, donc des êtres humains, dont c'est le métier, ou dont c'est la compétence, ou dont c'est la qualification et l'envie, qui puissent faire tourner la machine.
Allez, on se retrouve dans un instant.
J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène avant midi, mais elle ne viendra pas. Pas avant 3h30, car Mylène est comme ça. Elle a des choses à régler dans sa vie bien remplie. Et je ne suis pas le premier de ces morceaux choisis. J'aimerais bien m'allonger tous les soirs à ses côtés. Mais c'est un peu compliqué, alors je me tais. J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les soit qui revient. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle s'endorme avec moi. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, mais l'amour ne suffit pas. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Avec une fleur à la main, je l'aperçois du jardin. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si ça n'arrive pas. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime. Mais l'amour ne suffit pas.
J'attends Mylène. Mickey 3D sur France Inter. Dans notre tête au carré aujourd'hui, un sociologue Serge Guérin et un philosophe Pierre-Henri Tavoyau pour ce livre « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» Essai qui paraît chez Kalman Lévy. Si ce conflit n'a pas lieu, Pierre-Henri Tavoyau, est-ce que ça veut dire que finalement les jeunes et les vieux ont la même vision du monde ?
Bah, pas loin. C'est-à-dire que sur les choses essentielles, quand on fait les grandes enquêtes valeurs que l'on connaît et qui sont disponibles depuis maintenant presque une cinquantaine d'années de la part des sociologues qui étudient ça très très bien, on s'aperçoit effectivement que grosso modo les valeurs sont d'abord stables, contrairement à ce qu'on se dit, il n'y a pas de perte de repères, et qu'elles sont assez uniformes. Juste un petit exemple qui est le plus provocateur, quand on interroge les jeunes 13-24 ans sur la valeur qui arrive en tête chez eux, c'est l'autorité. Mmh. Voilà, ça fait hurler les 68ards, mais c'est bon, on peut s'en effrayer, cela dit, mais c'est une autorité qui a aussi changé de sens. C'est pas l'autorité qui tombe du ciel, c'est une autorité qui est au service de la construction de soi. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, les valeurs se sont individualisées et c'est partagé aussi bien par les personnes âgées que par les plus jeunes, avec aussi cette fameuse, on y viendra peut-être, fracture numérique, dont on dit qu'elle sépare de manière définitive les différentes générations. Et là aussi, on a pu voir que ce n'était pas le cas.
Pourtant, Serge Guérin, lorsqu'on interroge les jeunes sur leur vision de l'avenir, les réponses sont ultra pessimistes hein, quand même. Dans les enquêtes, ça ressort souvent, ça non ?
Oui, mais quand on interroge les seniors ou les plus âgés sur leur vision de l'avenir, ils sont aussi très pessimistes. Ils sont d'ailleurs très pessimistes pour les jeunes, justement. Mm. Et puis, bon, c'est vrai qu'en France, on a aussi un petit côté, on veut battre le record du monde du plus pessimiste, quoi. Mm. Généralement, d'ailleurs, les gens sont pessimistes à titre collectif et assez optimistes pour ce qui les concerne. Et là, que ce soit pour les plus âgés ou pour les plus jeunes. Ce qui fait que là aussi, on voit bien qu'il y a finalement plus de connivence et de réactions communes. Simplement, c'est vrai que nous partageons tous, quels que soient nos âges, en ce moment, un certain pessimisme. On est même un petit peu en déprime. Mais cette déprime, elle est portée aussi bien par des jeunes que par des plus âgés. Et en même temps, les réponses à cette déprime, elles sont aussi portées ensemble par des plus jeunes et par des plus âgés. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a beau être déprimé, n'empêche qu'il se construit. Dès qu'on sort un petit peu des grandes déclarations. Les grandes déclarations, tout le monde dit « c'était mieux avant ». Qu'on ait connu, que ce soit vrai ou pas. Mmh. Hein, voilà. Mais, et là, tout le monde s'y retrouve. En revanche, ce qu'on regarde sur le terrain, de manière dans la micro-société, dans la contre-société, d'une certaine manière, en fin de compte, il y a plein de choses très optimistes. Puisqu'après tout, se battre, s'organiser, essayer de défendre qui veut améliorer son cours d'eau, qui veut trouver d'autres solutions pour mieux apprendre, qui veut aider d'autres personnes à mieux comprendre le français, qui veut travailler sur le droit des femmes, que sais-je encore. En fin de compte, il y a une sorte d'optimisme de l'action. Qu'elle soit partagée d'ailleurs par toutes les générations. Donc toutes les générations communient dans une forme de pessimisme et toutes les générations s'organisent, s'auto-organisent dans une forme d'optimisme.
Alors ce mot de génération, justement, on le met souvent un peu aussi à toutes les sauces. Beaucoup d'expressions sont inventées autour de ce mot. Et précisément pour illustrer ce que vous disiez il y a un instant, Pierre-Henri Tavoyou, voici la génération Y.
Salut, j'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y. Y ? Y pour why. Parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre qui m'amène à me demander « Hein ? Mais pourquoi ?» En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement ADSL 56K, une heure par mois. Quoi ? Une heure par mois ? Ah ouais, d'accord. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en peer-to-peer. Mon smartphone est ma troisième main, et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il le faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et j'aspire à le changer. La portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté.
Alors, Pierre-Henri Tavoyeux, commentaire sur cette génération Y, mais il y en a plein d'autres. Hein. Génération 1998, génération Facebook, on peut les mettre à peu près à toutes les sauces.
Voilà, génération Y, millennials, etc., c'est un mot snob pour appeler jeunesse, pour dire jeunesse. Et là, il y a effectivement une charlatanerie assez gigantesque, il faut le dire comme ça, c'est qu'on voit de la génération partout. La moindre petite innovation technologique suscite un qualificatif générationnel, immédiat. Là aussi, on a besoin de récits pour parler de notre quotidien, notre actualité, et le mot génération s'impose. Mais soyons clairs, ce qui a changé, c'est pas ces phénomènes générationnels qui sont de la surface des choses, l'écume des choses. Et de ce point de vue-là, le portrait qu'a fait le jeune homme il y a un instant, vous enlevez la dimension numérique, vous retrouvez ce que Aristote disait des jeunes. C'est exactement le même portrait. Donc la jeunesse n'a pas changé de ce point de vue-là, elle est toujours insolente, elle est toujours branchée, elle est toujours... rien n'a changé de ce point de vue-là. Ce qui a changé, en revanche, il y a quelque chose qui a changé, c'est que cette phase d'entrée dans la vie est devenue beaucoup plus large qu'auparavant. beaucoup plus longue. La jeunesse dans les sociétés traditionnelles, c'est 3 jours, c'est le rite d'initiation. Aujourd'hui, c'est 15 ans, voilà. Et encore, j'allais dire, dans le plus scénario le plus bas. Donc c'est ça qui a véritablement changé. Donc on confond un phénomène structurel qui demande à être interprété, cet allongement de la jeunesse, de transition entre l'enfance et l'âge adulte, avec des phénomènes générationnels qu'on essaye de surinvestir, de surdéterminer, et ça crée effectivement quelque chose de tout à fait aberrant.
Et Serge Guérin, même pas de fracture numérique, parce que effectivement, on s'en rend compte avec nos parents, voire même nos grands-parents. Ils ont des comptes Facebook, ils font leurs achats aussi sur Internet, et finalement, tout le monde se comprend. Les jeunes aidant aussi les plus âgés à comprendre certains rouages des ordinateurs.
Absolument. En fin de compte, la première chose, histoire de remettre quand même tout le monde à plat, les personnes qui ont vécu une transformation la plus forte, c'est des gens qui ont 80 ou 85 ans, qui quasiment, quand ils sont nés, il n'y avait peut-être même pas un téléphone dans leur village. Et aujourd'hui, ils ont accompagné le téléphone portable, la télévision, l'ordinateur et aujourd'hui la tablette. Donc ce sont ces personnes-là qui ont été les plus pionnières d'une certaine manière. Donc la petite dame qui se promène un petit peu doucement, finalement, elle est hyper pionnière et plus que le jeune qui est passé à la version 4, à la version 5 de tel ou tel logiciel. Hein, donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième élément, il y a de fait une formidable réciprocité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas du tout gênant, honteux, de quelqu'un d'un peu âgé de se faire aider par quelqu'un de beaucoup plus jeune. En disant, écoute, j'ai pas bien compris, est-ce que tu peux m'expliquer? Et du coup, c'est extrêmement valorisant pour le plus jeune, qui du coup, comme il a été valorisé, peut aussi mieux écouter quelqu'un de plus âgé sur un autre sujet. Alors qu'avant, souvent, la transmission du savoir, c'était l'ancien vers le jeune. Aujourd'hui, c'est l'ancien vers le jeune, mais c'est aussi le jeune vers l'ancien. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très fort. Et puis le troisième élément, c'est qu'en fin de compte, ça a permis à désynchroniser les choses. Si je veux envoyer un message à ma grand-mère, si je l'envoie en sortant de boîte de nuit, il sera 3h du matin, je vais pas lui passer un coup de fil. En revanche, je peux lui envoyer un texto ou un mail, et puis elle le lira quand elle aura envie. Et elle me répondra peut-être à 15h de l'après-midi, à un moment où moi je dormirai, parce que je suis en train de me remettre de ma soirée. Et du coup, finalement,
Serge Guérin est très jeune, il sort en boîte de nuit encore.
et comme ça, finalement, bah oui, très souvent d'ailleurs, et puis Henri, on s'est rencontrés là. Et finalement, ça permet à chacun de rester à la fois dans son temps, mais de pouvoir échanger de manière plus forte qu'auparavant et en valorisant les uns et les autres. Donc, loin d'être une fracture générationnelle, la question numérique, elle a plutôt créé de la réciprocité générationnelle. Il reste après une fracture sociale, elle, très nette.
Pierre-Henri Tervaillou, la canicule de 2003, ça a été un électrochoc.
Oui,
il s'est passé quelque chose justement dans la prise de conscience de nos vieux aussi.
Incontestablement, c'est-à-dire que effectivement, ça c'est un élément qui est souvent auquel on fait souvent référence pour dire voilà, nous sommes dans une indifférence intergénérationnelle. Pas forcément la guerre, mais l'indifférence. Les générations ne se voient plus, ne se côtoient plus. Alors évidemment, ça aurait été le cas si la France avait pris l'affaire avec une totale indifférence. Mais ce qui a été marquant, c'est que un nombre d'initiatives incalculable s'est créé immédiatement après cette canicule qui existe toujours aujourd'hui. Ce sont par exemple des commerçants qui restaient ouverts pendant l'été qui ont dit, bah écoutez, on va faire une cellule de veille. Si vous partez en vacances, bah voilà, manifestez-vous, dites si vos grands-parents restent ici, puis on sera un petit peu attentif et puis on vous passe un petit coup de téléphone. Et ça a suscité un engouement, ça a suscité une action et effectivement une attention parce que, en effet, l'intergénérationnel dans les sociétés d'individus est fragile, incontestablement. Parce qu'il faut le penser, il faut le choisir, et il faut le réfléchir et le faire vivre.
Et donc, puis là, tout le monde s'est retrouvé face à une réalité, c'est-à-dire cette impression d'avoir abandonné ces vieux quand même.
C'était un choc, c'était effectivement un choc. Et donc, c'est cette idée que voilà, on était tous partis en vacances et qu'il y avait un truc qui s'était passé. Donc ça a permis, voilà, encore une fois, version pessimiste, ça prouve que notre monde est absolument abominable. Version plus optimiste, qui est celle qu'on partage, eh bien, on réagit, on agit, on réfléchit, et finalement, on aboutit à des choses qui sont infiniment plus positives.
Vous parliez des rites de passage tout à l'heure en Afrique, qui sont évidemment ultra rapides. Est-ce que, comme dans certains pays justement d'Afrique, la position de la personne âgée va être reconsidérée aussi dans nos pays occidentaux, avec vraiment cette figure du sage qu'on écoute et auquel on se réfère?
Il faut être là aussi et faire attention. C'est-à-dire quand on regarde par exemple le classement des personnalités préférées des Français du JDD, ce qu'on remarque dans ce classement, c'est qu'en fait, ceux qui arrivent en tête sont en général, systématiquement, des gens qui sont à la retraite. Alors, pas forcément des vieux au sens du terme, mais par exemple, un sportif à la retraite. Yannick Noah a été longtemps, Zidane, après son exercice. Un président, d'ailleurs, de la République, plutôt à la retraite qu'en exercice.
Oui, ça marche mieux.
Mais les grandes figures qui ont marqué ce classement, c'était l'abbé Pierre et sœur Emmanuel, c'est-à-dire précisément des vieux. Donc, il faut faire attention à l'idée que nous serions dans une époque jeuniste. Les choses sont en vérité beaucoup plus compliquées que ça. On se dit que les gens à qui on fait confiance sont des gens qui sont effectivement, qui ont fait leurs preuves. Qui ont fait leurs preuves et qui font souvent une seconde vie après leur vie de performance. Et c'est à eux qu'on fait confiance et qu'on admire d'une certaine manière. Donc, le jeunisme, jusqu'à un certain point.
Serge Guérin.
Si on prend deux figures internationales, avant, d'une certaine façon, la figure qui était sur tous les t-shirts, c'était Che Guevara, qui est mort jeune et on le voyait comme quelqu'un de jeune, même s'il fumait trop le cigare. Aujourd'hui, celui qui est, c'est Mandela, qui a été un jeune très très turbulent, qui a mis en cause le système, mais c'est aussi sa sagesse, sa capacité à négocier, qui en a fait cette figure presque planétaire. Et donc c'est quelqu'un de très âgé qui était devenu un monde, qui est devenu une des grandes références parce qu'il a su finalement par la paix faire avancer les mentalités, et ainsi de suite. Donc on voit bien que l'âge, pour beaucoup de gens, est peut-être non pas la sagesse, mais la capacité un petit peu à organiser les contraires, la capacité à écouter les autres, la capacité à l'empathie. Et des gens très jeunes se reconnaissent comme ça dans des figures très anciennes. On parlait en aparté de la question de la musique, de la chanson, des chanteurs très jeunes qui vont rendre hommage à des chanteurs beaucoup plus âgés. Alors qu'on pourrait dire, c'est complètement dépassé, c'est décalé, c'est un peu ringard. Et non, ils y retrouvent quelque chose, mais ils le réinterprètent. Et ça qui est intéressant, c'est que finalement, la jeunesse, en s'appuyant sur la vieillesse, réinvente un autre monde.
Allez, nous avons pour vous un artiste intergénérationnel, c'est Bob Marley. Bob Marley.
La tête au carré, jusqu'à 15h sur France Inter.
Pierre-Henri Tavoyau, Serge Guérin, la guerre des générations aura-t-elle lieu chez Calman Levy? Vous me disiez hors antenne que Bob Marley était vraiment un artiste intergénérationnel, Pierre-Henri Tavoyau.
Oui, mais pour certaines autres raisons.
C'est ça, exactement. Alors, des solutions, parce que vous en proposez également dans cet ouvrage, mais pourquoi au fond? Parce que vous avez quand même un constat globalement assez positif. Des solutions, pourquoi? Pour renforcer encore mieux les liens?
En fait, voilà, je pense que une bonne action politique, c'est pas une action qui dit on va changer les mentalités, on va changer la société du tout au tout, parce que ça, en général, ça marche pas. Mmh. Il faut remarquer que les choses existent déjà, mais qu'elles sont fragiles et qu'il faut effectivement les renforcer. L'intergénérationnel, c'est le cas. Il existe, il est fort, il est investi par l'ensemble de la population, mais précisément parce que nous sommes sortis des solidarités mécaniques que décrit Durkheim de la tradition, il faut y être attentif, ça demande à être cultivé. Et donc, l'action publique, l'action privée d'ailleurs, associative, est absolument indispensable. Donc les associations sont sur le modèle de l'intergénérationnel. D'ailleurs, on pourrait dire qu'une association, par définition, c'est de l'intergénérationnel. En général, oui. C'est toujours un club de foot, un club de danse, un club. On a vraiment toujours de l'intergénérationnel. En règle générale, c'est quelque chose qui se transmet. Il y a une histoire, etc. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut aussi envisager l'action publique. Alors, on n'a pas fait un catalogue de mesures parce que ce qui compte, j'allais dire, c'est la cohérence d'ensemble d'une politique et c'est pas tellement la liste des mesures qu'on veut faire. Mais il y a un point qui nous a paru vraiment très, très, tout à fait important et qu'on a rencontré à peu près partout dans le cadre de notre enquête, c'est la hantise de la segmentation. C'est-à-dire qu'on est dans des vies totalement segmentées, le privé, le public, le professionnel, mais aussi sur le plan des âges. De ce point de vue-là, la politique, il y a eu une politique de l'enfance, une politique de la prime enfance, une politique de la jeunesse, une politique de la vieillesse, de la grande vieillesse. Mais à chaque fois, ce sont des bureaux différents, ce sont des administrations différentes, en oubliant à chaque fois que finalement, c'est une seule et même personne qui vit sa vie du berceau à la tombe. Donc, de ce point de vue-là, d'aborder de manière globale la politique intergénérationnelle, par cette nouvelle politique des âges de la vie, ça nous paraît extrêmement important, avec une sorte de clarification des objectifs. En fait, le truc essentiel dans cette affaire, c'est finalement l'adulte. Parce que l'adulte, c'est l'acteur, c'est celui qui est acteur. Et comment fabrique-t-on un adulte? Et une fois qu'on l'a fabriqué, comment on le protège? On le protège en tant qu'adulte, c'est-à-dire pas en l'assistant, pas en l'infantilisant, mais en tant qu'adulte. C'est ce fil conducteur qu'il faut retrouver dans l'ensemble de nos politiques des âges de la vie.
Ouais, les âges de la vie, Serge Guérin, donc solution envisagée en tout cas pour renforcer ces liens, travailler oui. Plus sur cette question.
Nous, ce qu'on avait envie, c'est au-delà du constat et au-delà de presque du militantisme, de montrer, mais en chercheur, c'est-à-dire sur du réel, que les enjeux, que cette guerre des générations n'avait pas lieu. En même temps, c'est comment on fait avancer les choses. Comment on propose des politiques publiques qui sont, en fin de compte, un horizon et une vision. Alors, il y a plein de sujets. Par exemple, on parle beaucoup du service civique. Oui. Et avec raison. Le service civique, c'est en fait, on découvre bien tard que si on veut faire un pays, il faut aussi que les gens y partagent quelque chose.
Vous sentez que cette idée monte réellement en puissance ou pas?
Oui, oui, c'est-à-dire que...
Relancée par François Hollande lui-même, oui, d'ailleurs.
Enfin, relancée d'abord par les attentats et par la barbarie qu'il y a eu. Et donc derrière, il y a des réponses. Et nous, ce qu'on s'était dit, c'est si on veut développer service civique, il faut s'appuyer aussi sur d'autres forces. Et par exemple, les retraités. Qui peuvent du coup se mobiliser et donc participer de cet effort de manière volontaire, bien sûr. Mais là, autour de cela, il y a vraiment quelque chose de très fort, parce que c'est à la fois de la transmission, c'est aussi une manière aussi de relativiser les choses. Quand quelqu'un d'un peu âgé vous raconte que quand lui, il était jeune, eh bien les toilettes étaient au fond de la cour, ou bien lui, il vivait sans téléphone portable, il se sentait pas pour autant dans la misère, il se sentait pas pour autant relégué en troisième classe, ça permet d'aider à relativiser. Ça peut être un exemple. Deuxième chose, par exemple, Pierre-Henri disait, en termes de séparation d'âge, par exemple, même politiquement, même dans les institutions, vous avez toujours un ministère de la jeunesse et du sport, pourquoi obligatoirement on devrait associer jeunesse et sport, et puis de l'autre côté, souvent sous la responsabilité d'un ministère de la Santé, vous avez un secrétariat d'État aux personnes âgées et à l'autonomie. Vous disiez, mais pourquoi ne pas créer un grand ministère de l'intergénération, justement de tous les âges, et comment on construit en fait un projet global. Vous voyez, voilà, ça peut être deux pistes. La question des retraites, bien sûr, parce que s'il y a un élément majeur de l'intergénération, c'est que le système quand même, c'est que quand on travaille, on cotise pour ceux qui ne travaillent plus. Ensuite, la génération suivante cotisera pour vous. Et là, on voit bien qu'il y a énormément d'inégalités. Et si on veut recréer de la solidarité, si on veut renforcer cette équité sociale, il faut aussi inventer un système de retraite qui soit, disons, égal pour tous. Je prends un autre élément. dans nos sociétés d'aujourd'hui, où quand même de plus en plus on va avoir des vies professionnelles qui sont segmentées. Moi je dirige un diplôme, directeur des établissements de santé à l'INSEC, où en fin de compte j'ai aussi bien des jeunes gens de 23 ans que des gens de 53 ans qui sont en reconversion. Et donc certains, ils ont des vies comme ça extrêmement séquencées. Mais si on changeait le système de protection sociale, plutôt que le mettre sur le statut, de le mettre sur la personne, de son plus jeune âge à son dernier âge, en fin de compte, il serait beaucoup plus en capacité de voir son avenir, de construire son projet et d'avoir un minimum de ceinture de sécurité quand il se lance, quand il doit cesser le salariat pour monter sa boîte ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça permettrait aussi de construire des solidarités intergénérationnelles s'appuyant sur de la solidarité sociale.
Alors un exemple pour illustrer par exemple le logement social intergénérationnel, c'est à Saint-Apollinaire, c'est près de Dijon et c'est un reportage de 2006 réalisé par Sandrine Houdin.
Moi, j'ai mon jeune en face. Quand j'avais besoin de gaz, il allait me chercher ma bouteille de gaz. Je lui donne tous les jours mon journal. Je lis le journal, puis je le mets à sa porte. J'avais un meuble à monter. Il me dit, qu'est-ce que c'est, tous ces cartons-là? Ben, j'ai un meuble à monter, mais j'y connais rien. Allez, donnez-moi les cartons, je vais vous le monter. 2 heures après, il était placé à la place. En échange, ben, je l'ai récompensé. Je vais pas vous dire ce que je lui ai donné. Mon petit jeune, ben oui. Et puis, il est beau. Il a tout pour plaire.
Monique non plus n'échangerait sa place pour rien au monde. C'est la doyenne de la résidence. Elle vit là depuis sa création.
Là, dans le bâtiment, là, derrière, là. Il y a une famille qui a des petits-enfants, on se rend service. Il vient me remettre ma lampe si elle casse ou quelque chose. Et on garde les petits s'il y a besoin. Hein. C'est pas une affaire, ça. Hein. C'est bien.
C'est bien aussi pour les enfants qui vivent ici, insiste Janine. Apprendre que la dame qui peint juste à côté, c'est pas une vieille, c'est une personne âgée et qu'on peut s'amuser et rire ensemble malgré la différence d'âge sur la carte d'identité.
Prête-moi ton gris, Makai, prête-moi ton gris. Il parle pas, dis bonjour à la dame.
Bonjour.
Ah, là, c'est bien. Dis ton prénom à la dame.
Stanislas.
Et qu'est-ce que tu fais, Stanislas, là?
De la peinture avec les mamies.
Alors, la peinture avec les mamies, c'était à Saint-Apollinaire en 2006. Serge Guérin, vous connaissez cette commune, vous avez suivi même cette initiative. 10 ans plus tard, qu'en est-il?
Alors c'est vrai que d'ailleurs l'un des animateurs s'appelle Pierre-Henri Dor, comme quoi le prénom Pierre-Henri doit avoir quelque chose en lien avec l'intergénération. Alors c'est vrai que ça a été une des premières initiatives comme ça où il y a une volonté d'une commune. Alors ils ont construit une charte tout ça, et ça a permis à ce que les gens vivent ensemble et en créant des solidarités. Et c'est vrai que de celles-ci on voit de plus en plus d'initiatives. Il y en a une à Sainte-Foy-les-Lions par exemple. Il y a plein d'endroits comme
ça. Mais ça fonctionne encore 10 ans plus tard.
Et ça fonctionne encore 10 ans plus tard. Et il y a un réseau qui s'est constitué, réseau francophone Ville Amis des Aînés, où il y a aujourd'hui à peu près une cinquantaine de villes, c'est l'OMS derrière qui était dans cette thématique-là, en disant essayons de construire quelque chose qui soit plus agréable pour les plus âgés et du coup, en fin de compte, c'est plus agréable à vivre pour tout le monde. Et un des éléments de cette question d'agréabilité, si je peux utiliser ce terme, c'est justement l'ensemble des générations se côtoient, contribuent ensemble, coopèrent et y trouvent de l'intérêt. C'est de l'intérêt quand je suis une famille, j'ai des enfants, il y a quelqu'un d'un peu plus âgé, pas très loin, qui peut s'en occuper un petit peu, qui peut rassurer. C'est un intérêt pour la personne un peu âgée qui sait qu'il y a une famille pas très loin et ça peut me rassurer. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on est gagnant quand les deux s'y retrouvent. Il ne s'agit pas du tout d'opposer, mais au contraire, il ne s'agit pas de mettre chacun un petit peu dans son coin, mais de construire des relations. Mais des relations, alors qui peuvent être assez structurées, par exemple à Saint-Apollinaire, il y a vraiment une charte qui a été constituée. D'autres villes ont choisi de ne pas démarrer par une charte. Mais en tout cas, c'est comment chacun s'y retrouve, chacun est gagnant et chacun y trouve plus de douceur de vivre. Peut-être que l'élément derrière, c'est qu'en fin de compte, on pacifie les choses, on crée moins de violence entre les personnes.
Pierre-Henri Tavoyot, pour terminer, on parlait de créer d'autres ministères. Vous suggérez le ministère de la longévité, c'est ça?
Oui, ça, alors la
longévité, serait quoi?
C'est un ministère qui en fait réfléchirait à la totalité des aspects de cette question de l'allongement de la vie, c'est-à-dire que avec des projets même fous, le transhumanisme compris et perspectives.
Ah oui, c'est un grand allongement de la vie.
Oui, c'est un grand allongement de la vie. Mais c'est problématique.
À discuter quand même.
Oui, mais c'est problématique. Non, mais c'est aussi les enjeux qui sont les enjeux de demain. C'est-à-dire cette perspective un peu folle de se dire finalement. On retrouve au cœur de la philosophie, c'est-à-dire quelle est la vie qu'on veut allonger? Où augmente la vie? Est-ce que c'est la jeunesse qui augmente? Est-ce que c'est l'enfance? Est-ce que c'est l'âge adulte ou est-ce que c'est la vieillesse? Et cet allongement de la vie, qu'est-ce qu'on en fait? On vit une génération de plus qu'il y a 100 ans. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait une activité libre, une activité de labeur, une activité familiale? Donc là, c'est vraiment le point essentiel. La question n'a pas changé. La vie mérite-t-elle d'être vécue et quelle vie mérite d'être vécue? La réponse qu'on apporte ici, c'est qu'une vie mérite d'être vécue quand on est en lien. Voilà, c'est ça. Le bonheur, c'est l'absence de malheur. Ça, c'est une définition négative. Et la définition positive, c'est le bonheur, c'est la qualité des liens. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Et entre les générations de préférence. La guerre des générations aura-t-elle lieu? Point d'interrogation, mais vous nous avez donné la réponse tout au long de cette discussion. C'est un essai qui sort chez Calmann Lévy, dont vous êtes les auteurs, Serge Guérin et Pierre-Henri Tavoyot. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans la tête au carré. C'est terminé pour cette tête au carré. Merci à Stéphanie Texier qui était à la réalisation, Mehdi Fattah à la technique. Dans un instant, Affaires sensibles avec Fabrice Rouel. Et demain, je recevrai Serge Morand pour son livre La prochaine peste. Bonne journée à tous et à demain.